Rappelons qu'Heiner Müller est un des plus grands dramaturges allemands du XXe siècle. Il a traité les grands mouvements idéologiques qui ont secoué l'Europe depuis le début du siècle. Heiner Müller a publié ses premières œuvres dans les années 50. Ses pièces, parfois interdites à la scène en RDA, ont eu un grand succès en Allemagne de l'Ouest, en Europe, au Japon et aux États-Unis. Dès 1980, il met en scène certaines de ses œuvres à la Volksbühne et au Berliner Ensemble, ainsi que l'opéra Tristan et Iseut de Wagner au Festival de Bayreuth de 1992. Il disparaît alors qu'il travaillait à la mise en scène de son dernier travail, Germania 3, Les Spectres de la Mort, au Berliner Ensemble. Sous le titre Müller Factory, Michel Deutsch a mis en scène deux pièces de Heiner Müller, Hamlet Machine et Germania 3. Michel Deutsch est né en 1948 à Strasbourg. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, des poèmes, des essais, des pièces de théâtre, dont Dimanche, Thermidor, Sid Venia Verbo, Inventaire après liquidation et beaucoup d'autres. Son théâtre a été traduit et mis en scène dans de nombreux pays, dont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis. En 2003, il met en scène au Centre dramatique national de Montreuil Hamlet Machine d'Heiner Müller, suivi d'un de ses textes, L'Audition. Müller Factory est la continuité de ce spectacle. Tout d'abord, écoutons un extrait chanté par les acteurs et les actrices enregistré pendant les répétitions au Théâtre Saint-Gervais.
Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland scheint.
Michel Deutsch. En quoi Heiner Müller nous parle-t-il encore aujourd'hui?
En quoi il nous parle encore aujourd'hui? Le problème, c'est de savoir de quoi on parle encore aujourd'hui. J'ai l'impression que si on est sujet au bombardement des images de la télé, à l'assourdissant bruit de ce qu'on ose à peine encore appeler la musique, qui va des supermarchés ou des hypermarchés au casque qu'on a sur la tête quand on se promène dans la rue, je veux dire, effectivement, à ce moment-là, le problème de Heiner Müller se pose de manière tout à fait insolite. Mais c'est le problème, c'est la même chose qui se passe quand on parle d'un écrivain. Qu'est-ce qu'un écrivain peut encore nous dire aujourd'hui? Le problème des écrivains, de l'écrivain en général, c'est la langue. Alors comment est-ce que l'écrivain va travailler pour nous raconter quelque chose à propos de la langue, donc à propos de nous? C'est ça le travail de l'écrivain. Si l'écrivain est là uniquement pour raconter des petites histoires qu'on raconte, je sais pas, dans Star Academy par exemple, pour coacher des jeunes gens qui vont tous chanter sur le même air, de la même manière, qui vont être formatés de la même manière, effectivement l'écrivain n'a plus aucune raison d'être. Donc le problème de l'écrivain, c'est la langue, c'est de travailler la langue. Si on sait, en outre, que le sujet, c'est une grande révolution dans l'appréhension du sujet en Occident, est produit par la langue et non pas par l'individu, on comprend que le travail de l'écrivain est tout à fait, j'allais dire, central, d'une certaine manière, et en même temps marginalisé par les choses telles qu'elles vont et le monde tel qu'il va. Le problème, c'est, il ne s'agit pas évidemment de dire que c'est l'écrivain qui a raison et c'est le monde qui a tort. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de trouver la distance adéquate pour avoir un regard sur les choses. Je pense qu'à Heiner Müller, parce que c'est un grand écrivain, parce que c'est sans doute le plus grand écrivain de théâtre allemand après Brecht. Et naturellement, il y a Boto Strauss, il y avait avant lui Fassbinder, il y a Kreutz, il y a Thomas Bernhardt. Il y a d'excellents écrivains de théâtre allemand. N'empêche que la radicalité de Müller amène quelque chose de tout à fait inouï. Bon, lui-même s'inscrit dans la suite de Brecht. C'est-à-dire, il fait une relecture critique de Brecht, mais pas seulement de Brecht. Cette relecture critique de Brecht, elle procède, et c'est là où on en vient au problème du public français, par exemple, elle vient aussi d'Artaud. Elle vient de l'avant-garde française. C'est-à-dire, la relecture critique de Brecht par Müller procède de l'avant-garde française et américaine. Problème de qu'est-ce que Müller peut raconter à un public français. Est-ce que la question allemande telle qu'il la soulève peut intéresser un public français? Naturellement, puisque le XXe siècle a été pour l'Europe le siècle des guerres civiles. C'est une guerre civile, et c'est un historien allemand qui le définit ainsi. Le XXe siècle a été l'époque de la guerre civile européenne, qui d'ailleurs a suicidé, on peut le dire, la civilisation européenne d'une certaine manière, avec le nazisme, avec le communisme stalinien. Au centre de cette histoire, il y a l'Allemagne. Et c'est donc l'histoire allemande telle que la raconte Müller, arriver que on peut essayer de comprendre quelque chose à l'histoire européenne. Parce que l'histoire allemande est au centre, à ce moment-là, de l'histoire européenne. Bon, c'est le déclenchement de la guerre de 14-18, on le sait bien. C'est à partir du refus du traité de Versailles, la montée du nazisme et de l'idéologie totalitaire raciste du fascisme. Et c'est à l'Est, bon, l'idéologie totalitaire issue du bolchevisme. Donc, et chaque fois, l'Allemagne est au centre de ce... Mais aussi parce que c'est un pays central. Et si on suit l'histoire de l'Allemagne, pour contrer l'Allemagne depuis la fin du XIXe siècle, car il faut bien savoir que quand même l'Allemagne devient le pays le plus puissant d'Europe, par exemple en termes de production d'acier, qui était l'étalon comme ça pour mesurer la puissance en termes de production d'acier, l'Allemagne dans les années 1880 dépasse l'Angleterre, hein. Elle ne sera plus rattrapée que par les États-Unis quelques 50 ans ou 30 ans plus tard. Donc pour contrer l'Allemagne, l'Europe démocratique, donc l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, a toujours été obligée de construire des alliances pour essayer d'encercler l'Allemagne. Et par conséquent, l'Allemagne s'est toujours sentie encerclée, et elle a toujours voulu rompre cet encerclement. Et donc l'histoire européenne procède aussi de ça. Alors dire que les Européens, ou les Français en particulier, ne vont pas s'intéresser forcément à l'œuvre de Müller parce que c'est une œuvre allemande, profondément allemande, pour moi c'est une question qui ne vaut pas, enfin, puisque je pense que c'est à travers l'Allemagne qu'on peut comprendre l'histoire du XXe siècle, forcément, mais aussi l'histoire qui nous attend désormais.
Michel Deutsch, que représente Hamlet Machine?
C'est sans doute la pièce la plus célèbre de Müller. C'est un classique du XXe siècle. Hamlet est un héros allemand pour Müller. C'est la figure, aux yeux de Müller, c'est la figure de l'intellectuel allemand du XXe siècle. À savoir, quelqu'un qui a été éduqué à la raison et qui rencontre des fantômes. Hamlet, dans la pièce de Shakespeare, il étudie à Wittenberg. C'est une université où on est censé, enfin à moins qu'on apprenne la magie à l'université, ce qui m'étonnerait quand même, on est censé être éduqué à la raison. Or, il rentre chez lui à Elsener, et qu'est-ce qu'il rencontre? Des fantômes. Donc il est pris entre ces deux pressions, comme ça. D'un côté, l'homme raisonnable qui se dit « les fantômes n'existent pas », et d'un autre côté, le type qui croit aux fantômes parce que il en rencontre un. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est le problème de l'intellectuel allemand. Müller avait un autre exemple, enfin a posteriori, puisque c'était après avoir écrit Hamlet Machine, c'est Louis Althusser, donc intellectuel marxiste français, qui était prisonnier, pour ainsi dire, de son idéologie, enfin de l'idéologie du Parti communiste français, qu'il a essayé de démonter dans ses travaux, enfin sur le marxisme, et en même temps qu'il lui a réellement gâché la vie, puisqu'il en est arrivé à tuer sa femme. Encore une histoire de Hamlet. Voilà, alors donc pour Müller, Hamlet est vraiment un personnage central. Lui-même s'identifie d'une certaine manière à Hamlet. À savoir, il est velléitaire pour s'opposer au pouvoir, et en même temps, il accepte de collaborer, c'est beaucoup dire, de travailler à l'ombre de ce pouvoir, qui est donc le pouvoir de la RDA. Voilà, alors donc Hamlet Machine comme pièce centrale. En même temps, Hamlet Machine, c'est un peu une pièce qui pose, ou plutôt un texte. Est-ce qu'on peut dire que Hamlet Machine est une pièce? C'est encore une autre question, puisque il y a un dialogue qui dure exactement deux répliques. Donc c'est un peu court. Donc la pièce, en tous les cas, n'est pas construite de manière classique. Alors, autant la définir comme un texte plutôt que comme une pièce. Ce texte, donc, Hamlet Machine, pose les conditions de possibilité du théâtre. C'est pour ça qu'il est intéressant. Car, évidemment, aujourd'hui, le théâtre ne va plus de soi. En même temps, le fait même que le théâtre ne va plus de soi fait que le théâtre pose la question la plus intéressante aujourd'hui, à savoir la question de la représentation. La seule question intéressante. Là encore, Hamlet Machine est un analyseur tout à fait aigu de la crise de la représentation. Müller a bien mis le doigt sur l'état du théâtre, traduisant l'état du monde, à savoir un théâtre de crise, la crise du monde, qui se traduit à travers la crise du théâtre. Donc le théâtre est toujours en crise, pour ainsi dire. Et en même temps, il ne peut plus tout raconter. Si on compare, par exemple, le Shakespeare à n'importe quel auteur de théâtre du XXe siècle, il est évident que, à travers Shakespeare, les gens qui vont au théâtre du Globe, par exemple, ou dans les autres théâtres élisabétains, contemporains de Shakespeare, à Londres, ils vont au théâtre, d'abord c'est toutes les classes sociales mêlées, hein, et ils vont au théâtre parce qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a tout simplement pas autre chose, ce qui fait que remplir les théâtres n'est pas un problème, puisque on ne peut pas aller ailleurs pour voir du spectacle. Or, ce qui se passe dans les théâtres à l'époque élisabétaine, enfin dans le théâtre élisabétain, c'est le théâtre qui sert à la fois de divertissement, d'information, de match de boxe, de film porno, on apprend quelque chose sur l'état du monde au théâtre.
Michel Deutsch, qu'est-ce qui vous intéresse dans le théâtre?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le théâtre mène quelque part, ou amène les gens quelque part, les amène à emprunter un chemin qu'ils ne peuvent pas emprunter de manière ordinaire comme ça.
Nous avons enregistré un extrait pendant la répétition. De quoi s'agit-il?
C'est donc un acteur, il s'appelle Julien de Songas, formidable acteur, qui interprète donc Staline. Staline en but comme ça au fantôme qui le harcèle.
Camarade, pourquoi est-ce que tu bois la nuit? Pourquoi as-tu peur quand ton pouvoir est la loi? J'en sais assez sur chacun pour le liquider. Dans mon dos, plus aucun ennemi n'est vivant. Les morts ont le sommeil léger. Ils conspirent dans les fondations et ce sont leurs rêves qui nous étranglent. Trotsky, le juif qui joue banco, la hache dans le crâne. C'est une chaise, rien d'autre. Pourquoi avoir peur d'une chaise vide? Koba, pourquoi avais-tu besoin de ma mort? C'était Boukharine, l'enfant chéri du parti. J'avais besoin de lui comme ennemi. Il était le meilleur. Il l'a bien apprise, sa leçon, l'enfant chéri du parti. Il est vrai, sous la torture, deux larmes pour le meilleur ennemi. Un sixième du globe tressaille dans mon poing et explosera en nul Dieu ne sait combien de morceaux si la mort me fait ouvrir le poing avant l'heure. J'ai le bras court, et mon bras est plus long qu'aucun bras qui n'ait jamais grandi en Russie, et la Russie est l'empire des bras longs. C'est un jeu d'enfant. Le papier bat la pierre. Aucun homme ne pèse plus que son dossier. L'encre boit le sang, la Remington remplace le Mauser, et chaque dossier est l'écriture sainte. Qui compte les morts quand les tombeaux sont vides? Tant que l'humanité à genoux ne se relèvera du sang que nous avons versé, au dernier congrès du parti, les monuments ne saigneront pas.
Alors, en parlant de divertissement, vous avez traité en priorité l'aspect choral de la pièce en mélangeant des scènes de cabaret. C'est dans un but de divertissement par opposition aux scènes de barbarie, de chaos qui sont contenues dans cette pièce.
Bon, les scènes de barbarie et de chaos, elles sont extrêmement, extrêmement divertissantes. Regardez le tsunami et les massacres du Rwanda et tout ça. C'est extrêmement divertissant à la télé, ça. Moi, mon problème, et le problème du théâtre, c'est de déconstruire ça. C'est de dire pourquoi le spectacle, et en priorité le spectacle à la télévision, fait que on ne peut plus voir des massacres, ou des morts, ou des souffrances, que comme dans le récit d'un spectacle, ou à travers un spectacle. C'est pour ça que je pense qu'il faut une écologie de l'image. Et que le théâtre, précisément, peut produire cette écologie de l'image. Parce qu'on en voit trop. On attend la suite, on attend toujours la suite. Ah oui, alors d'abord, il y a 10 000 morts, après il y a 20 000 morts, bon Dieu, quel ennui, après il y en a 30 000, là, ça va déjà un peu mieux. 120 000 morts, pff, ça y est, c'est bon, mais un peu plus encore, c'est encore mieux. Et puis à 160 000 morts, le feuilleton s'arrête. Bon, ben on passe à autre chose. Ah oui, il y a eu un accident de la route. Alors, oulala, il faut qu'il soit bien sanglant, l'accident de la route, parce que sinon, c'est pas possible.
Et la projection des images, l'introduction des vidéos est un de vos travaux personnels ou il avait été aussi prévu par Einar Müller?
Non, ça c'est l'apport de la mise en scène, mais
les personnages cités.
C'est une chose qui se fait souvent au théâtre. Non, c'est pas là rien d'original. Ce qui est original, c'est le talent avec lequel nous mettons ça en œuvre.
Oui, on a vu que c'est aussi, vous avez demandé un gros travail physique à vos acteurs.
Mais ils sont excellents. Moi, je crois le théâtre, c'est une histoire de jeunes gens. Je me sens même un peu vieux déjà pour faire du théâtre. C'est une histoire de jeunes gens et que les gens vont aussi au théâtre, ils préfèrent aller au théâtre pour voir des jeunes gens qui en plus sont beaux. Bon, il y a des belles filles, les garçons sont magnifiques, enfin tout ça. En plus, ils ont du talent. Et ils ont pris cette histoire à bras le corps, comme ça. Comme quoi, alors qu'ils sont suisses, hein, jeunes voix. Bon, il y a une Allemande de RDA dans l'histoire, enfin qui est née en RDA, était toute jeune, et une Française, mais tous les autres acteurs sont suisses. Bah, c'est des histoires qui les concernent en premier chef. Je veux dire, jamais il s'est posé la question que, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce truc-là, on préférait être à la télé, faire des trucs avec la Star Academy, non?
Michel Deutsch, espérons que le public partagera le même engouement.
Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt uns schafft wie nie zuvor. Und der eigenen Kraft vertrauen, steigt ein Freigeschlecht empor.
Nous étions avec Michel Deutsch, le metteur en scène de Müller Factory.